Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous ce soir. Ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour nous éclairer, pour vous éclairer vous également. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons aussi Amdine Sy à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Avec nous aussi Élisée Oumpantine depuis Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc on espère bien qu'on aura Thierry Kamboundi de Top Congo FM d'ici là. En attendant, merci à tous de votre présence. Nous commençons cette émission par les éliminatoires de la CAN Niger 2019, dont le troisième et dernier tour s'est joué le week-end écoulé. De grosses surprises, hein, tout de même. La Zambie ne défendra pas sa couronne, hein, au Niger. Victorieux 1-0 à domicile à l'aller. Les Chipolo Polo Junior ont été surpris hier par le Burundi 3-0. Le Cameroun aussi ne disputera pas cette CAN des moins de 20 ans. Les Lions Indomptables Junior ont été balés 3-0 à Bamako par le Mali. Écoutons l'heureux coach malien des Aiglons, Mamoutou Kanedi Mourlé.
La clé du match, c'était l'efficacité. On a été plus réaliste que c'est tout. C'est ça mon objectif, être efficace et ne pas encaisser. Si on arrive à comprendre ça, je pense qu'on peut comprendre Mourlé. Sinon, c'est très difficile de comprendre Mourlé. Parce que moi, mon football, c'est le réalisme. Si on se base sur le réalisme, on peut aller très loin. Si on fait des beaux jeux et qu'on n'aille pas loin, on est éliminé. Ça aussi, c'est autre chose. Pour le moment, moi, l'efficacité est la meilleure des solutions. Et je remercie tous les supporters.
C'était donc le sélectionneur des Aiglons, des Aigles Junior, Mamoutou Kanedi Mourlé, au micro de notre correspondant du service Bambara Bamako, Siaka Traoré. Alors Élisée, je commence par vous. Les Aigles Juniors ont sorti le Cameroun. Les Maliens sont quand même réputés de réussir dans les tournois de petite catégorie.
Ah oui, Yacouba, on sait très bien que chez les moins de 17 ans, le Mali est tenant du titre. Le Mali a fait très bonne prestation en remportant ce tournoi. Même au niveau des équipes locales sur le continent, quand on prend le Chad, on voit souvent le Mali comme quoi c'est un pays qui a un très bon championnat, qui a de très bons centres de formation, même s'il y en a qui sont en difficulté actuellement. Je vais bien nommer le centre Salif Keita. Sinon, il y a Jamaki qui a fait beaucoup de promotions pour le centre de la fête d'Abidjan, Mimo Sitcom. Il fait partie des fondateurs de ce centre. Actuellement, il est du côté de Bamako avec un projet pareil. Il y a également le centre de formation 11 créateurs. Donc, c'est-à-dire que c'est un pays réputé pour la formation de jeunes joueurs. Aujourd'hui, ça s'est fait remarquer déjà. Et ils ont fait une très bonne prestation face aux Camerounais lors du match aller à Yaoundé. Bien hier, ils ont connu un renfort d'Italie qui a quitté le Portugal et qui est venu remporter l'effectif qui était déjà en place. Eh bien, le résultat, ça s'est fait remarquer hier, les Camerounais n'ont rien vu. Ils ont été touchés simplement, balayés par ces Maliens 3-0. Il faut compter avec cette sélection malienne lors de la phase finale qui aura lieu l'année prochaine du côté du Niger.
Bien évidemment, c'est la grosse déception chez les Lionceaux indomptables qui ont fait preuve d'inefficacité, comme nous l'explique leur entraîneur Ousmane Christophe.
Mes impressions sont l'impression de quelqu'un qui a perdu un match. Nous étions venus en espérant se qualifier, mais l'équipe malienne a été plus forte et s'est qualifiée. Donc le seul bon vent. On n'a pas pu marquer de but. Vous savez, pour gagner la rencontre, il faut marquer de but. C'est tout le collectif. Hein. On n'a pas pu marquer, ils en ont pu marquer trois. On le souhaite bon vent.
Bon, on va donc aux Aiglons. Le sélectionnaire des Lions Junior, des Lions Indomptables Junior, Ousmane Christophe, au micro de Siaka Traoré. Alors, Jules, 1-1 à Yaoundé au match aller, défaite 3-0 à Bamako au match retour. Les Lions Indomptables Junior ne seront pas au Niger pour la CAN des moins de 20 ans. Cela vous surprend-il?
Non, pas vraiment, parce que au niveau de la formation, il y a eu un petit recul au Cameroun, et il y a surtout un problème d'infrastructure adaptée. Vous savez que pour être réaliste et marquer des buts pendant les rencontres, il faut savoir shooter les coups francs, les balles arrêtées dans les conditions de jeu. Donc il faudrait que les infrastructures correspondent réellement à la réalité du terrain. Bon, alors c'est pas le cas. Il y a des écoles de football, il y a des qui prolifèrent, qui, ma foi, n'ont peut-être pas le même niveau. Mais en même temps, il y a un manque criant d'infrastructures. Je crois que le vrai problème se trouve à ce niveau.
Merci bien, Jules. Avec un léger avantage pour le Sénégal qui recevait le Congo à Dakar après un match nul de 2-2 à Brazzaville, les Sénégalais ont assuré 4-1 devant les Diables Rouges Juniors. Eh bien, Amdine, une suite logique pour les Lionceaux?
Tout à fait, Yacouba. C'est une troisième qualification successive hein, pour les Lionceaux de la Teranga qui ont eu à jouer quand même la finale des deux dernières éditions en 2015. C'était à Dakar, une finale perdue quand même face au Nigeria sur le score 2-0. Ensuite, en 2016, ils ont perdu également une finale face au Chipolo Polo de la Zambie. C'était en Zambie, cette finale. Donc, c'était normal que les Lions de la Teranga puissent quand même décrocher quand même cette qualification parce que cette fois-ci, l'objectif est d'aller quand même gagner ce trophée continental qui manque tant au Sénégal. Mais pour revenir à ce match, il faut dire que les Lionceaux, les poulains de Youssou Dabo n'ont fait que confirmer car ils avaient tenu en échec quand même les Congolais sur le score de 2-1. Donc, il fallait achever le travail et ils l'ont fait de fort belle manière. Mais il a fallu quand même attendre la 35e minute pour voir quand même les Lionceaux ouvrir le score par Youssoufou Badji. Les Sénégalais ont doublé la mise à la 41e sur un but contre son camp d'un Congolais. Donc, à la mi-temps, la moitié du chemin a été faite parce que 2-0, c'était une avance confortable pour les Sénégalais. Mais à la reprise, ils vont quand même accélérer la cadence pour mettre deux autres buts. D'abord à la 48e minute par Cavin. Cavin, c'est l'un des rescapés de cette équipe qui a été finaliste. Cavin qui est devenu professionnel. Donc il est venu, il a marqué le troisième but. Ousseï Nounia a marqué le quatrième but à la 79e minute. Les Congolais quand même ont sauvé le meuble en réduisant le score tout juste à la fin du temps réglementaire, donc 4-1. Mais le héros de ce match, Yacouba, n'est personne d'autre que le latéral gauche de cette équipe nationale du Sénégal. Il s'appelle Gilles Aou. Gilles Aou qui était aussi finaliste de la dernière édition. Ce latéral gauche du Sénégal a délivré 3 passes décisives sur des balles arrêtées. Comme vous le savez, en football maintenant, les balles arrêtées sont tellement importantes et le jeune Sénégalais l'a prouvé sur des corners et sur des coups francs. Chapeau à cette équipe nationale du Sénégal qui doit maintenant aller au Niger pour gagner le trophée parce que l'objectif n'est rien d'autre. Quand on joue deux finales et on perd deux finales consécutives, le prochain objectif c'est quoi? Remporter le trophée continental, surtout que le Sénégal n'a rien gagné dans toutes les catégories. Donc Yacouba, l'objectif est d'aller prendre le trophée au Niger.
Alors, Thierry Kamboudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, vient de nous rejoindre. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Alors, Thierry, ce n'est pas passé hein, pour vos voisins de l'autre rive hein, du fleuve Congo.
Ce n'est pas passé hein, parce que voilà, ils ont été moins bons que les Sénégalais. Amdine Sine l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, il faut dire, tant pour ce qui est de nos voisins du Congo qui ont remporté la CAN de la catégorie A chez eux en 2007 que pour les Léopards d'eau de la République démocratique du Congo. Il y a encore du chemin à faire pour ce qui est du football d'âge. Ça essaye de s'organiser, mais tant qu'il n'y a pas de championnat, tant qu'il n'y a pas une vraie politique de football d'âge pour encadrer les minimes, les cadets, les juniors, voilà. Et les espoirs, ça sera très très compliqué pour eux de pouvoir s'en sortir. J'ai salué il y a quelques mois, ici même sur les antennes de VOA Afrique, la politique mise en place par la Fédération malienne de football qui est en train de payer. Là, on a parlé, on a dit tellement du bien des Maliens, les Camerounais sont en régression. C'est vrai qu'ils ont remporté, ils ont rencontré les Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe de l'UNIFAC il y a quelques semaines également. J'ai senti que dans les chefs des Camerounais, au niveau des football, du football d'âge, il y a également des soucis que vient de nous rappeler le doyen tout à l'heure. Donc voilà, pour ce qui est de l'Afrique centrale, de la RDC, tout comme du Congo-Brazzaville, il faut une vraie politique, il faut des moyens et il faut surtout organiser des championnats et des vraies détections et un certain suivi au niveau du football d'âge. Sinon, ça ne servira à rien de prendre part à des compétitions continentales, régionales ou internationales. Sinon, nous allons toujours prendre du retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest qui est très très avancée par rapport à nous en cette matière.
Merci bien Thierry. Jules, la mission s'annonçait compliquée pour les Panthers juniors du Gabon après leur défaite 3-1 à Ouagadougou devant les Étalons juniors. Ils ont encore plié les Chines à Libreville 0-1 face aux Étalons. Les carottes étaient-elles cuites déjà depuis Ouagadougou au match aller?
Oui, il y a d'abord que l'équipe qui doit ouvrir le jeu s'expose. C'est dans le football actuel, c'est une évidence. Mais il y a aussi le fait que le Burkina Faso en face est quand même un des modèles actuels au niveau de la formation des jeunes. Donc le Gabon n'est pas en reste, mais deux écoles, en quelque sorte, deux écoles de formation se rencontraient. Et je crois que la plus forte actuellement, la plus impressionnante actuellement, l'a emporté. Donc il y a un vivier, un grand vivier au Burkina Faso, et il y a également une volonté de transformer le football en activité industrielle. Et ça, c'est un exemple à suivre pour notamment les nations d'Afrique centrale, dans lesquelles le football des jeunes reste encore plus un loisir qu'une véritable option de développement.
Logique respectée à Lagos entre le Nigeria et la Mauritanie. Victoire écrasante des Flying Eagles 5-0. Et puis, je le disais plus haut, la Zambie ne défendra pas sa couronne au Niger. Victoire 1-0 à domicile à l'aller. Les Chipolo Polo Junior ont été surpris par le Burundi 3-0. Jules, je me retourne encore vers vous. Le Burundi qui élimine la tenante du titre, la Zambie, dès les phases éliminatoires, c'est un coup de tonnerre.
Oui, peut-être un coup de tonnerre, oui, parce que nous avons surtout le prisme des équipes de catégorie des seniors en tête, mais il faut pas oublier non plus que le football des jeunes, c'est d'abord la matière première. Au départ, c'est la matière première. Et donc, les pays qui sont les moins pillés en matière humaine par les pays les plus développés en football, nous présentent souvent de temps en temps des cuvées vraiment très impressionnantes. Je crois que ça doit être le cas pour le Burundi où le football est relativement protégé des grands courants de migration, sauvages qui se font au niveau des pays comme le Cameroun et les autres.
Merci bien, Jules. Alors, le dernier qualifié sera connu le 12 août à l'issue de la double rencontre entre le Bénin et le Ghana. La compétition, elle est prévue du 2 au 17 février. Élisée, pourquoi ce match Ghana-Bénin ou Bénin-Ghana a été ramené jusqu'au 12 août pour la dernière confrontation entre les deux? Le premier, c'est le 4, je rappelle.
Oui, Yacouba, il faut le dire, juste à cette situation que traverse actuellement la Fédération ghanéenne de football, Niataki, qui a été démis de ses fonctions pour faute de corruption. Vous le savez très bien, ce problème a mis tellement le football ghanéen que l'État central a demandé à la FIFA une installation d'un comité pour en gérer, bien sûr, en attendant de nouvelles élections. Et c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, la FIFA a accepté et un comité de transition a été mis sur pied. Donc, durant cette période, j'allais dire, le Ghana avait demandé le report de cette rencontre. Sinon, les deux équipes auraient pu s'affronter en match aller-retour. Ce que la CAF a accepté, et le match aller aura lieu le 2 août prochain, match retour le dimanche 12 août du côté du stade général Mathieu Kiékou de Cotonou. Et les Béninois s'activent réellement, il faut le dire, puisque déjà à la tête de l'équipe junior, c'est un très grand monsieur, très connu du football africain, Valère Rondinou, l'éternel adjoint de Stéphane Kéchi, paix à son âme. Il a accompagné dans toutes ses tâches du côté de Togo au mois où Kéchi qualifiait les Étaviers pour sa première Coupe du monde de football. Il était à côté de lui également du côté du Mali, également du côté du Nigeria au moment où les Super Eagles remportaient la Coupe d'Afrique des Nations il y a de cela 4 ans. Donc, Valère Rondinou, l'expérience qu'il faut, il a fait qualifier les écureuils pour le premier tour en dominant la Gambie. La prochaine étape, ce sera le Ghana, ce sera un peu difficile, c'est vrai, mais les préparations se poursuivent. D'ailleurs, l'équipe est allée battre le champion du Togo, l'AS Togo Port, il y a de cela une semaine du côté de Lomé, 2-0, il faut le faire puisque les Togolais dans la foulée ont battu 3 jours plus tard. Les Mamelodi sont donc d'Afrique du Sud en Ligue des Champions du 1-0. Donc, c'est une très belle performance. Hier, du côté de Lagos, cette équipe Junior après match nul, excusez-moi, après match nul, début partout, avec une sélection des joueurs qui veulent s'expatrier, les joueurs qui n'ont pas de club et qui veulent s'expatrier un peu partout en Afrique des biens. La sélection junior béninoise après match nul, début partout, c'est-à-dire que Valère Ondino connaît sa troupe avec quelqu'un qu'on ne présente plus, à l'actuel star du football béninois, Ibrahim Ogunlola, le capitaine des espoirs qui était du côté du Ghana pour le tournoi de l'Outaouais. Eh bien, il a actuellement 19 ans, donc c'est lui qui est le capitaine de cette sélection junior, et il a d'ailleurs inscrit un but face à l'AS Togo Port. Aujourd'hui, l'espoir est porté sur lui. Ce sera un match difficile, connaissant bien sûr le football ghanéen, surtout en matière de formation des jeunes joueurs. Ça va être difficile, mais pas impossible. On attend le 12 août prochain pour être vraiment situé sur le 8e qualifié pour cette Coupe des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019.
En attendant donc le 12 août, pour savoir qui du Bénin ou du Ghana va se qualifier pour Niger 2019, on a déjà le Burkina Faso, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Mali, le Burundi, déjà qualifié en plus du pays hôte, bien sûr le Niger. Alors aucun pays d'Afrique du Nord ou encore aucun pays est maghrébin. Amdine, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que les autres pays ont commencé à travailler. Par exemple, je prends le cas que je maîtrise le plus, c'est le cas du Sénégal. Il y a des années où le Sénégal ne participait jamais à des compétitions de jeunes, mais depuis quelque temps, avec l'avènement aussi des centres de formation, il faut le dire, parce que les pays du Maghreb, ils avaient avant sur les autres pays, parce que tout simplement, sur le plan des infrastructures, c'était nickel. Maintenant, les pays de l'Afrique, quand même de l'Ouest, ont commencé à se battre pour revenir un peu à la hauteur des pays maghrébins, parce que tout simplement, ils ont des centres de formation, la politique de formation des jeunes. Au Sénégal, nous avons une Jambar qui est en partenariat avec lui, qui a formé des joueurs comme Idrissa Gane Gueye, comme Fabien Soare. Et il y a l'avènement aussi de Génération Coute, qui est un club partenaire du FMS. Ce club a formé un joueur comme Sadio Mané, un joueur comme Diafara Sakho. Donc, beaucoup de jeunes joueurs sortent maintenant de ces centres de formation. Donc, avec ces jeunes, d'abord, on règle un problème. C'est le problème de l'âge des joueurs africains. C'est un véritable problème. Donc, quand on prend les jeunes très jeunes, par exemple, à l'âge de 12, 13, 14 ans, donc ils vont grandir et ils vont faire toutes les catégories au niveau des centres de formation. Et le pays en profite, c'est le cas du Sénégal, qui depuis un certain temps commence quand même à sortir la tête de l'eau, parce que cette politique est bénéfique. Parce que nous, on citait le Mali en exemple, parce que à chaque fois, le Mali, qui est notre voisin à côté, parvenait à avoir des équipes de jeunes qui jouaient très bien, qui parvenaient à avoir des résultats. On se dit, pourquoi pas faire comme le Mali? Et on l'a fait, et cela commence à porter ses fruits, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Alors, la CAF appelle au travail après l'échec des représentants africains au Mondial 2018. Les pays qui ont représenté l'Afrique à la Coupe du Monde et la CAF se sont réunis le week-end écoulé pour chercher les causes de la pire participation du continent et mondial depuis 1982. Alors, pour Ahmad, ce bilan maigre et inquiétant doit inciter les coachs, les coachs d'expérience, les jeunes, spécialistes et autres, bien sûr, à se mettre au travail pour Qatar 2022. Eh bien, il y avait deux entraîneurs, bien sûr, qui étaient en Russie, qui étaient présents du côté de Rabat pour ce mini-sommet, là, on va le dire comme ça, ou encore pour ce mini-congrès. Aliou Cissé et Guénotro, voici ce qu'en pense, bien sûr, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Je viens sur place au téléphone, Aliou Cissé.
Ces compétitions-là doivent nous permettre de mûrir et de continuer à travailler. Donc, il y a aussi, ne pas oublier, il y a eu que 5 équipes africaines dans ce mondial-là. Donc, si on doit faire une comparaison entre le gratin africain et celui d'Européens et Amérique du Sud, je crois qu'ils ont un peu plus, ils ont plus d'équipes que nous sur la scène internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler là-dessus, à faire comprendre tout simplement que 5 équipes africaines, ça ne suffit pas. Il nous faudra peut-être une dizaine d'équipes africaines. Sur ces 5 équipes-là, si vous rajoutez l'Algérie, vous rajoutez le Cameroun, vous rajoutez la Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain qu'au deuxième tour, on aura une équipe africaine.
Thierry, est-ce que vous partagez cette analyse d'Aliou Cissé qui dit qu'il faudra plus d'équipes africaines au Mondial pour espérer atteindre les tours suivants?
Ah oui, absolument.
C'est vrai que je n'irai pas comme lui jusqu'à dire que pour qu'on atteigne le niveau attendu, il faudra plus d'équipes, mais l'Afrique ne doit pas rester à la traîne en termes de quotas. Il nous faut absolument plus d'équipes pour avoir plus de chances d'aller le plus loin possible. Alou Cissé a également souligné sur le boulot, le travail qui doit être fait à tous les niveaux. C'est d'ailleurs la recommandation majeure de la Confédération africaine de football. Les sélections africaines doivent absolument travailler et être mieux organisées pour atteindre le niveau qu'on a vu au Mondial Russie 2018, parce que ces différentes sélections, notamment celles qui ont échoué, tant de l'Europe, de l'Asie que de l'Amérique ou des Amériques, vont revenir en force en 2022. Donc si nous restons à la traîne, si nous ne faisons rien pour essayer d'améliorer, d'élever notre niveau des jeux, alors que nous avons du talent à revendre sur le continent, nous ne pourrons pas franchir ce palier tant attendu ou encore espérer atteindre les demi-finales ou la finale d'une phase finale de Coupe du Monde. Il nous faut travailler, il nous faut des meilleures infrastructures en Afrique, il faut mettre des équipes nationales dans des meilleures conditions de travail, des conditions semblables à celles des équipes européennes ou américaines, pour que nous puissions un jour espérer une Coupe du Monde remportée par une sélection africaine.
Alors, pour Ahmad, président de la CAF, ce bilan est maigre et inquiétant. Appelle seulement à plus de travail. On l'écoute.
On a vu, même l'Amérique latine aujourd'hui, pendant cette Coupe du Monde, qui personne n'a jamais cru que le CONMEBOL ne peuvent pas être présent dans les carrés finales. Mais on l'a vu. C'est un signal fort qu'il n'y a que l'Europe où le niveau de développement économique même est très élevé, ou qui met en place des programmes cohérents pour leur formation. La preuve même, la France aussi. Il faut accepter que la France est un des pays aujourd'hui qui produit, par la formation, par leur centre de formation, beaucoup de joueurs de talent. Donc, il faut revoir tout ça. Et à la CAF, après, de mettre en œuvre des suggestions et les propositions émanant de ces techniciens pour revaloriser notre travail.
Alors Jules, voici l'analyse, voilà on va dire l'analyse d'Ahmad Ahmad. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
Oui, mais partiellement. Tout le monde est d'accord qu'il faut de la formation, il faut des infrastructures, mais nous sommes dans le contexte de la mondialisation et là, comme dans tous les phénomènes économiques, tout se fait naturellement. Le pôle actuel principal, c'est l'Europe qui attire. Et là-bas, je crois qu'il faut essayer de limiter les dégâts et tout simplement arrêter d'abord l'hémorragie. Vous voyez que les équipes européennes qui s'expriment le mieux puisent leur matériel en Afrique, humain en Afrique. Vous savez, dans les années 60, le roi Pelé a fait une tournée en Afrique avec son équipe Santos. Et il avait prédit qu'au début des années 2000, le meilleur football ou alors les meilleurs footballeurs se trouveront en Afrique. Que l'Afrique dominerait le football mondial, mais ce qu'il avait oublié, ce qu'il n'avait pas su, c'est que ce serait sous d'autres couleurs, sous d'autres maillots. Et c'est ce qui se passe depuis 20 ans pratiquement. Donc je crois que face à cette situation, il faudrait que la prospection se fasse aussi très tôt et qu'on fasse, on utilise les moyens que d'autres pays, les pays qui justement utilisent ces joueurs, qui leur permet de retenir les joueurs chez eux, mais on les fait jouer un peu plus rapidement en équipe nationale pour qu'il n'y ait plus de possibilité de les récupérer ailleurs. Je crois que là aussi, il faut battre sur ce terrain à malin et demi. Donc je pense que tout le monde, c'est un débat ouvert, mais tout le monde a toujours un argument à y ajouter.
Merci bien. Jules Valentin Ngoué, ce sera votre mot de fin depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir et à très bientôt.
Merci et bonsoir également à Thierry Kamboundi à Kinshasa. Au revoir Thierry.
Au revoir Yacouba et à la semaine prochaine.
Amdine Sy à Dakar était avec nous. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Et enfin Élisée Oumpatine depuis Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et à lundi prochain.
Merci à tous et merci également à vous qui nous avez écoutés. C'était Sporama sur VOA Afrique. Tout de suite, ce sera les infos avec Raïssa Girondin. Merci à Michel Joseph pour la réalisation. À lundi prochain.